Avant de commencer notre émission consacrée à la culture palestinienne en résistance,
l'actualité nous oblige à transmettre nos condoléances, notre totale solidarité à nos amis palestiniens
et à leur dire notre immense tristesse. Mercredi 11 mai, Shirin Abu Akleh a été assassinée par un tir délibéré de l'armée israélienne d'occupation en pleine tête, alors qu'elle couvrait une incursion des militaires à Jenin.
Elle portait un casque et était vêtue d'un gilet pare-balles marqué « Presse » clairement identifiable. Shirin Abu Akleh, américano-palestinienne, était une journaliste chevronnée, reconnue par la presse du monde entier pour son intégrité professionnelle.
Elle était l'une des premières correspondantes de terrain d'Al Jazeera.
Pendant un quart de siècle, elle a été au centre du danger couvrant les guerres, les attaques et les agressions de l'occupation israélienne contre les Palestiniens.
À son enterrement, les forces israéliennes ont attaqué le convoi funéraire et ont arraché les drapeaux palestiniens.
La vitre du corbillard a été brisée, mais revenons à notre émission « La culture palestinienne en résistance ».
Alors que la Palestine vit sous la violence de l'occupation israélienne,
qu'elle est victime de crimes de guerre, de la spoliation de sa terre, de son identité et de ses traditions,
qu'elle subit le racisme et les discriminations, la culture apparaît comme un moyen de résistance contre l'oppression.
Elle permet de perpétuer l'héritage artistique palestinien.
La société palestinienne a réussi à préserver son identité nationale et culturelle, échappant ainsi à une disparition programmée.
Les vieux mourront et les jeunes oublieront, avait prédit Ben Gourion, eh bien non. En Cisjordanie occupée et à Gaza, la création artistique palestinienne existe, elle est aujourd'hui vivante,
active, pleine d'énergie. Elle s'invente et se réinvente. Au travers du cinéma, du théâtre, de la littérature, de la musique, de la danse, de la calligraphie ou de la gastronomie,
elle est plurielle et prend le plus souvent la forme d'une contestation. Elle est aussi poétique et esthétique.
Elle devient outil de résistance, de résilience et de créativité.
Alors aujourd'hui, quelle culture palestinienne entre résistance et espoir?
Pour en parler, nous recevons
Mounir Anastase, ambassadeur délégué permanent de la Palestine auprès de l'UNESCO. Bonjour monsieur l'ambassadeur, merci infiniment de votre présence.
Et la troupe de du Théâtre de la Liberté de Jénine en tournée en France, Ahmed Thomassi, acteur et directeur artistique.
Bonjour.
Bonjour à vous trois.
Ainsi que l'association des amis du Théâtre de la Liberté ATL Jénine.
Sophie Mayou, responsable de l'association, assurera donc la traduction.
Alors,
vice-présidente. Alors, merci de votre présence au Théâtre ATL Jénine. Nous sommes ravis de vous recevoir à Radio Armada et nous avons le plaisir également de recevoir Fadwa Kader qui est avec nous en visio, en direct de Jérusalem, qui est directrice générale de Sunflower et responsable du PPP, du Parti du Peuple Palestinien, et qui apportera son témoignage puisqu'elle a été molestée par les troupes d'occupation israéliennes. En fin d'émission, nous irons à Gaza avec Liad Alastal, journaliste, cinéaste palestinien, qui a créé la série webdog Gaza Story et qui nous présentera une vidéo sur une journaliste à Gaza handicapée. C'est une artiste également.
Avant de commencer notre débat, quelques actualités sur la Palestine. Stop à l'apartheid contre les Palestiniens. Ségrégation territoriale et restriction de mouvement.
Saisie massive de biens fonciers et immobiliers.
Expulsion forcée, détention arbitraire.
Torture, homicides illégaux.
Après 4 ans de recherche, Amnesty affirme que le système de domination et d'oppression mis en place par l'État israélien à l'encontre des Palestiniens constitue un crime d'apartheid, tel que défini par le droit international.
Alors, signez la pétition en ligne d'Amnesty International jusqu'au 30 septembre 2022. Déjà 43 496 soutiens. Aidez-nous
à atteindre les 50 000 signatures.
CPI. La Fédération internationale des journalistes a porté plainte contre Israël pour le ciblage systématique de journalistes en Palestine.
Selon Reporters sans frontières, en 4 ans, près de 150 journalistes palestiniens ont fait l'objet de violations de la part des militaires israéliens.
Grenades, coups de matraque, gaz lacrymogène, balles en caoutchouc, balles réelles, bombardements des installations de presse, assassinats ciblés.
Tous les journalistes portaient des gilets de presse clairement identifiables au moment où ils ont été abattus, ce qui équivaut à des crimes de guerre.
Israël tente de bâillonner ceux qui documentent les crimes de guerre d'Israël.
Les bulldozers israéliens arrivent à Mazafeh Yatta dans les collines, au sud d'Hébron.
La Haute Cour d'Israël a autorisé l'expulsion de plus de 1000 résidents palestiniens de 8 villages au sud d'Hébron, en Cisjordanie occupée, à l'issue d'un long processus juridique de 22 ans.
9 maisons sont déjà détruites et 45 Palestiniens sont sans abri.
Les prisonniers politiques palestiniens. Au 1er mai 2022, selon la source d'Adamir, 4450 prisonniers politiques sont enfermés illégalement dans les geôles israéliennes,
dont 160 enfants, 32 femmes et 530 détenus administratifs. Salah Hamouri, avocat franco-palestinien, est toujours en détention administrative.
Sa carte de résident à Jérusalem-Est lui a été confisquée. Il peut rester indéfiniment en résidence administrative, en détention administrative. Alors maintenant, nous passons à l'interview. Revenons à nos invités avec
Monsieur l'ambassadeur, cette première question vous est destinée. Donc, comment expliquez-vous l'assassinat délibéré d'une journaliste? Est-ce qu'Israël a franchi encore une fois une limite dans la violation du droit, celle de tuer en toute impunité?
Israël ne cesse de franchir ses limites. Israël n'a jamais cessé de franchir les limites malgré tous les rappels à l'ordre par les organisations internationales, à commencer par les Nations Unies. Mais ce que je souhaite dire ici, étant donné que l'UNESCO n'est pas seulement en charge de l'éducation et de la culture, mais également de la communication et de l'information, et la liberté de la presse, la liberté d'expression et la protection des journalistes. Et à ce titre-là, la directrice générale produit un rapport sur les violations en matière de liberté de la presse, mais surtout en matière de meurtre ou d'autres violations concernant les journalistes. Et suite à l'assassinat, qui était un assassinat, clairement, elle était ciblée. Tout le monde la reconnaît qu'elle était ciblée, puisqu'elle avait le gilet pare-balles avec presse dessus, elle avait le casque et elle a reçu la balle quand même en plein visage. Donc elle était ciblée. Est-ce que Israël a franchi une autre ligne rouge? Israël continue à franchir, et à chaque fois qu'on leur trace une ligne rouge, ils se pressent pour l'enjamber ou la franchir. Bon. Malheureusement, c'est continuel. Mais moi, j'insiste sur la protection des journalistes et la liberté de la presse. Vous savez, à l'UNESCO, en dehors de toutes les résolutions, décisions dans le domaine, il y a également un groupe informel qui s'appelle le groupe des amis de la liberté de la presse et de la protection des journalistes. Et la Palestine en fait partie. Certes, c'est un groupe informel, mais ça montre l'attachement de la Palestine à la liberté de la presse et à la protection des journalistes. Nos journalistes, vous l'avez dit, vous avez cité les chiffres, vous avez fait un résumé très riche, je vous en remercie. Mais en réalité, la question est toujours la même. On sait qu'Israël ne cesse de franchir les limites, leurs violations en la matière est incessante. Il y a des décisions qui condamnent cela, mais Israël ne répond pas. Et ça s'applique à toutes les autres violations. Par exemple, hier et toute la semaine, on avait des réunions du comité subsidiaire pour la convention de 70. C'est pour le retour des biens culturels à leur pays d'origine. Donc, puisqu'on est en matière de culture. Et puis ensuite, il y avait les 3 derniers jours également le comité intergouvernemental pour le retour ou la restitution des biens culturels qui sont transférés illicitement. Ça s'appelle ICP-RCP. Et à travers de ces instances, on ne cesse d'adresser des demandes à Israël de retourner les biens pillés. Par exemple, la semaine dernière, simplement, la police israélienne a saisi une quantité gigantesque de biens culturels, en fait, d'artifices, des antiquités. Ils l'ont saisi en Israël, mais ils ont reconnu l'autorité des antiquités israéliennes, ont reconnu que ça a été pillé en Palestine, en Cisjordanie. C'est vrai, c'est des pilleurs palestiniens qui vendent à des bandits israéliens. Bon, Israël, quand il saisit cela, il le garde. Et ça, c'est illégal. Ça, c'est un cas. Mais les autres cas, c'était des vols effectués par l'armée israélienne israélienne ou sous la protection de l'armée israélienne, comme par exemple le Baptister qui a été volé en juillet 2020 pendant la pandémie à Trour, un village à côté de Bethléem. Ils sont entrés, ils ont pris le Baptister, ils sont partis. Accompagnés par l'armée, comme si de rien n'était, sachant que nous avions aussi des photos qui datent du 19e siècle avec des chercheurs, des archéologues anglais qui montrent la pièce. On la voit à court, là où elle a été volée. Mais malgré tout, les Israéliens, les Palestiniens l'ont volée. On l'a volée, je ne sais pas quand ni comment. En 2010, en avril 2010, ils effectuaient illégalement des fouilles à Bab el-Khalil, Jaffa Gate, et ils sont tombés sur une petite église byzantine, c'est-à-dire du 3e-4e siècle. Ils ont trouvé un petit morceau de mosaïque, à peu près un mètre carré, qui date de la même époque également. Ils ont pris le morceau et l'ont ramené à Jérusalem-Ouest, ce qui est illégal encore suivant cette convention de 1970. Et puis, pour la chapelle ou l'église, ils l'ont rempli de béton. Ça veut dire que c'est perdu à jamais, c'est perdu pour tout le monde. Israël ne cesse de franchir les limites, malgré les rappels à l'ordre, malgré les résolutions, malgré tout. Donc maintenant, la question, c'est jusqu'à quand? C'est ça la question. Et puis, il faut être honnête, les puissances occidentales, je parle de l'Union européenne, ne jouent pas du tout le rôle escompté.
La France, l'Union européenne, les États-Unis...
Les États-Unis, bon, j'en parle pas parce qu'ils sont partiels. C'est pas la peine d'en parler. C'est pas un médiateur plausible. L'Union européenne peut être cette troisième partie neutre. Mais ils ne le jouent pas parce qu'ils ne font que suivre la volonté du Big Brother des Américains. Pour revenir à l'affaire de Shirin Abu Akleh, bien sûr, c'était choquant pour la communauté internationale, pour tout le monde. Effectivement, ce crime ne doit pas s'arrêter là. Il y a eu des plaintes au CPI et ça va continuer. J'espère que ça ne cessera pas. Et puis, l'assassinat, c'est une chose, mais vous avez mentionné les deux choses. La deuxième chose, c'est horrible. L'atteinte à l'obsèque, ils ont fait ça, c'était terrifiant. Et ça, ça dépasse. Je ne parle pas en termes légaux et en termes. C'est même pas moral et humain.
On a transgressé vraiment ce qui est du vivant, du décès. Les vivants ne sont pas respectés, mais les morts non plus. On est vraiment là. C'est là aussi qu'il y a. Je crois que ça a déclenché une horreur et vraiment le rejet de toute la communauté internationale.
Y compris aussi des voix israéliennes que se sont élevées, heureusement. Ça c'est rassurant tout de même.
Rassurant. Alors là, on va avoir Fadwa Kader qui est en visio avec nous et on va la voir tout de suite. Bonjour Fadwa.
Nous sommes arrivés à un carrefour. La police et l'armée israélienne ont bouché ce carrefour. À ce moment-là, il y a eu un grand soldat particulièrement costaud qui a brandi son fusil contre la poitrine de quelqu'un. Moi qui suis une femme, je suis venue m'interposer en me plaçant entre la poitrine de ce jeune homme et le soldat. Que là-dessus, une discussion a démarré. Nous y allons, vous n'y allez pas, nous y allons, vous n'y allez pas, etc. Alors là, le soldat est parti et une bande, comme une bande de gangsters, mais c'était la police, sont arrivés en gonflant leurs muscles et nous ont menacés. Quand je les ai vus se précipiter vers nous, j'ai essayé de m'échapper. Ils venaient tellement vite que je ne suis même pas arrivée à trouver un endroit où j'aurais été en sécurité. Ils m'ont plaqué contre un mur, ils m'ont frappé, ils m'ont fait une contusion énorme de la taille d'une balle de ping-pong qui saignait et qui se voit encore aujourd'hui, 10 jours après. J'ai aussi des blessures au coude et ils m'ont tiré dans la jambe une balle enrobée de caoutchouc. À ce moment-là, des jeunes sont venus essayer de me sortir de là, mais j'étais tombée à terre et je souffrais tellement que je n'arrivais pas à me remettre debout. Et puis ils ont vu que je saignais au visage. Moi, je ne m'en rendais même pas compte parce que j'avais très mal à la jambe. Et du coup, ils m'ont emportée. Ils m'ont prise et ils m'ont emportée à l'ambulance la plus proche. tension artérielle a grimpé très très vite, à plus de 19, à 20. Et donc ils m'ont fait toutes sortes d'examens pour savoir si je souffrais de quelque chose de grave au niveau de cette énorme ecchymose. Et puis au niveau du genou aussi. Voilà où nous en sommes. Ok. L'affirmation extrêmement émouvante de Fadwa, ce qu'elle nous dit, c'est que les Palestiniens sont toujours là, qu'elle-même, pendant toute cette période autour de l'assassinat de Shirin Abu Akleh, n'a cessé d'être là, alors que le monde entier voyait ce qui avait été infligé, la manière dont le pouvoir israélien traitait les Palestiniens. Et les Palestiniens sont là, ils ne bougeront pas, ils continueront à résister. Golda Meir disait « les vieux mourront et les enfants oublieront ». Eh bien non, nous sommes ici et nous n'en bougerons pas.
Ce qui est émouvant et qui est vraiment la marque de la violence de l'occupation militaire israélienne. À présent, nous allons interroger notre ami Ahmed Tomasi. Donc Ahmed, tu es directeur et acteur du Freedom Theater dans le camp de réfugiés de Jénine. L'assassinat de Shirin a eu lieu à Jénine et depuis plus de 20 ans, Israël veut briser, en tout cas tente de briser sans le faire, la résistance des Palestiniens. Quelle est la situation au camp de réfugiés de Jénine, Ahmed?
Sophie, did you listen to? No, he wasn't.
Oh, no. Sorry.
Okay, it's okay.
I was somewhere else.
It's okay. First of all, I think the Israeli occupation, it's trying to hide the Palestinian identity from 80 years, not from, let's say, first intifada or second intifada. It's been going almost for a century that the Israeli trying to delete Palestine and Palestinians. But yes, the Palestinians still resist in every way they can. You want to give you space between or...
Oui, yeah. Malaisie. Oui,
yeah.
Oui.
D'accord. Donc ça fait presque 80 ans que les Israéliens essayent d'effacer complètement l'identité palestinienne.
The resistance, the Israeli try to compare resistance with terrorism.
Les Israéliens essayent de comparer, d'assimiler la résistance et le terrorisme.
But this is our duty as a media, as a journalist, as TVs, to tell everyone, to tell the world, resistance, it's our right.
En tant que média, en tant que journaliste, en tant que témoin, nous avons le devoir de dire que la résistance est un droit, c'est notre droit.
Légitime.
It's a catastrophe. It's a big scandal for the human rights, for the West, for Europe, for anyone claiming about a human being, that until today, in 2022, a journalist get killed by a soldier.
Donc c'est un véritable scandale pour les Nations Unies, pour l'Europe, pour le monde, qu'une journaliste puisse être tuée par un soldat.
So you can imagine if an international journalist have all the rights and have all the laws in the world still be killed in Jenin or in Palestine, imagine the young people, the artists, the everyone, each Palestinian is under the target of the Israeli army. They have no differences who you are, what you are. They, as a Palestinian, you could be killed, you could be imprisoned, and nobody even will mention you on the TVs or in the media.
Alors vous pouvez imaginer, si une journaliste peut être tuée comme ça, presque sans grande réaction, vous imaginez ce que c'est quand vous êtes, par exemple, un jeune homme de Jénine. Vous pouvez être tué sans le moindre problème. Tout est possible parce que tout est permis.
The West, France, America, they are responsible on what is going on in Palestine because this occupation is still until today. Because of this support of the West and big one as France and US, they support this occupation and that's why we still have this problem in Palestine over 80 years.
L'Occident, dans son ensemble, la France, les États-Unis sont responsables parce qu'ils soutiennent l'occupation. Et donc, si nous avons ce problème en Palestine, ces problèmes causés par l'occupation, c'est la France, les États-Unis, l'Occident qui en sont responsables.
We cannot measure the wild this occupation have been all where arrived. Today, they kill Palestinian and they consider them, then even we are not the human, because they know no one will follow them and put them in the courts as an international, because they get support, so they kill us without any responsibility, because they know they have the cover from the West and the media in West and US.
Ils nous tuent parce qu'ils nous considèrent comme des moins qu'humains, et ils nous tuent aussi parce qu'ils savent qu'ils n'auront aucune responsabilité, qu'ils n'auront pas à répondre de leurs actes devant aucun tribunal international. Grâce au soutien de
Israeli army invading West Bank 24 hours, 7 days a week, especially Jenin camp where I come from, where the Freedom Theater exists. The Israeli army each night, each morning in the Jenin camp, killing. Today there is a young people. Each morning we wake up on invasion and soldiers killing young people. From 1 month until now, almost 18 young and children people have been killed.
18. Just
18, at least that's what I know. And I come from Jenin camp. I live there, and I'm telling you, the media is not covering what exactly going on in Palestine.
Tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'armée israélienne envahit la Cisjordanie. Et elle envahit tout particulièrement le camp de Jenin, d'où je viens, moi, Tobassi, où j'ai grandi, où je vis. Elle tue des gens, des jeunes en particulier, sans que personne en parle, sans que les médias s'en fassent l'écho. Aujourd'hui, depuis un mois, on en est à 18 personnes bien connues. Il y en a peut-être plus.
And
18 jeunes, oui.
And today, oui. For us, we try to find a definition about the Israelis, the Zionism, the Israeli soldiers. They are not human for sure. They are not even animals. They are not even aliens. We don't know how to define them, because they went somewhere. A human being don't know what they are doing now. What is the definition of them?
Quand on essaye, nous, de définir ce que c'est que les soldats israéliens, on n'y arrive pas, parce que visiblement, ils sont pas humains, c'est pas non plus des animaux, ça n'est pas non plus des extraterrestres. On ne sait pas d'où est-ce qu'ils peuvent venir pour se comporter comme ils le font.
Bah justement, face à cette inhumanité que Ahmed décrit, qui est subie par les Palestiniens au quotidien, la révolte de la jeunesse monte. Il y a aussi une unité certainement nouvelle face à cette agression, cette violence. Est-ce qu'on pourrait être au bord d'une troisième intifada? Et je m'adresse à vous deux d'ailleurs.
Je traduis.
I think the third intifada is already happening from 15 years. I don't think there is third or five or six. We already, each day, we're living an intifada. Each day there is actions, clashes, killing, Apaches, helicopters, attacking all the time. And we try to stand up, because what the Israeli want us is to give up, and we say we are defeated. But with all of this, no, we're still standing there, and we will not give them this pleasure to see us, we are defeated. We will present and offered our children, our blood, our history, our food, our everything. We are ready to stand against this occupation, and we will not give them this victory, for sure, even as a feeling.
Concernant la question de la troisième intifada, bon, on peut dire première, deuxième, troisième, etc. En fait, l'intifada a toujours continué, elle ne s'est pas arrêtée.
Elle est permanente.
Elle est permanente. Depuis 15 ans, nous ne cessons pas de nous battre et nous ne céderons rien. Nous ne céderons ni notre nourriture, ni les lieux où nous vivons. Nous continuerons à nous battre et à résister.
Monsieur l'ambassadeur.
Merci. En fait, simplement avant de répondre à cette question, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit, mon ami Ahmad, sauf une chose. On ne peut pas dire que l'Europe et la France soutiennent l'occupation. Peut-être ils ne font pas assez de pression, ils ne prennent pas les mesures nécessaires face à l'occupation, mais la France, officiellement, jusqu'à nouvel ordre, ne soutient pas l'occupation. Et l'Europe non plus, parce que ce sont des pays qui respectent quand même les résolutions des Nations Unies. Ça, c'est un fait. Je pense que ce qu'on peut dire sur l'Europe et les États et la France, c'est qu'ils n'ont pas assez de courage pour faire pression sur les autorités d'occupation, sur Israël, la puissance occupante.
On peut parler de lâcheté.
Pardon ?
On peut parler de lâcheté de la France.
C'est
également
approprié, mais je préfère personnellement ne pas le dire, mais j'approuve.
Non, mais, je le dis.
Ah ben, non, non, mais non.
Alors,
concernant la question d'Intifada, moi, on m'a posé déjà cette question. D'habitude, j'aime bien prendre une image qui rejoint un petit peu sa réponse. Mais moi, je dis que la situation en Palestine, c'est comme les braises sous les cendres. Mm-hmm. Il suffit de souffler un peu et puis ça reprend. Et c'est ce qui se passe continuellement, effectivement.
And to add about the Intifada, it's very dangerous that the Israelis try to put the Intifada or resistance in one way, which is guns, whatever, violence or whatever. We, as a Freedom Theater, we believe we should resist in every way possible. As a Freedom Theater, we believe as our next Intifada or what we're doing as an Intifada is going to through theater, culture and art. We believe that as the Israelis occupying us and using any way possible to kill Palestinian, to occupy everything in theater, in TV, in war, even in our food. They steal our food. They steal our tradition. They steal our kufiya. They steal our map, in the, our name in the map. We have the right to resist back in any way possible. In theater, in radio, in TV, in YouTube, in dance. With everything possible. That's very important.
Alors, une petite incise, le mot intifada, il veut dire soulèvement. Hein. Les Israéliens enferment l'intifada dans la case de la violence, alors en particulier des fusils, des armes à feu, mais aussi d'autres formes de violence. En fait, l'intifada, c'est toutes les formes de résistance, y compris dans le monde de l'art et de la culture, y compris dans le monde, par exemple, de la gastronomie et de la nourriture, parce que clairement, les Israéliens veulent s'emparer de notre nourriture. Mmh. Ils veulent s'emparer de tout. Ils s'emparent de nos vêtements, ils portent des keffiyehs, ils s'emparent des noms de lieux sur les cartes. Et nous, donc, nous résistons par tous les moyens, à la télévision, sur YouTube, au théâtre, par toutes les formes d'art. Nous résistons à cette appropriation de ce qui est à nous.
Alors, belle transition et nous allons parler culture dans quelques minutes. Mais avant, monsieur l'ambassadeur, vous avez choisi une chanson qui va passer à l'antenne, une chanson de Georges Brassens qui s'intitule
« Quand les cons sont braves ».
Quand les cons sont braves. Alors, un petit mot d'explication.
Non, il vaut mieux l'écouter. Ça va de soi.
Alors, on écoute « Quand les cons sont braves » de Georges Brassens.
Sans être tout à fait un imbécile fini, je n'ai rien du penseur, du phénix, du génie. Mais je ne suis pas le mauvais bougre, j'ai bon cœur, et ça compense à la rigueur. Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent, ils n'emmerdent personne. Par malheur sur terre, les trois quarts des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. Si le sieur X était un lampiste ordinaire, il vivrait sans histoire avec ses congénères. Mais hélas, il est chef de parti, l'animal. Quand il débloque, ça fait mal. Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent. Ils n'emmerdent personne, par malheur sur terre. Les trois quarts des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. Si le sieur Z était un jobastre sans grade, il laisserait en paix ses pauvres camarades. Mais il est général, va en guerre, mat à mort. Dès qu'il s'en mêle, on compte les morts. Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent. Ils n'emmerdent personne, par malheur sur terre. Les trois quarts des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. Mon Dieu, Pardonnez-moi si mon propos vous fâche, en mettant les connards dans des peaux de vache, en mélangeant les genres, vous avez fait la terre ce qu'elle est, une pétaudière. Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent, ils n'emmerdent personne. Par malheur sur terre, les trois quarts des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde.
Nous revenons à l'antenne. Monsieur l'ambassadeur va nous expliquer la chanson de Brage Saint.
Non, c'est simplement une chanson que j'aime beaucoup parce que c'est une chanson qui pousse à l'intelligence, hein, tout simplement. Mais je souhaite, moi, dire que, comme Ahmad l'avait souligné, que notre résistance, pas seulement le lancer des pierres, mais surtout culturelle, comme il l'a dit, et sur la tradition, sur la culture, le patrimoine. Bien sûr, le théâtre de la liberté en fait partie, mais moi personnellement, par exemple, dans mon activité antérieure en tant que compositeur de musique, j'ai écrit pas mal de pièces que je considère aussi comme faisant partie de cette résistance. Par exemple, j'ai une pièce pour orchestre qui s'appelle Break Now the Walls, c'est-à-dire abattez les murs. Mm-hmm. Et puis une autre petite pièce pour piano qui s'appelle Petite étude pour la paix. Effectivement, nous continuons notre combat. La musique en fait partie, la peinture en fait partie, le théâtre en fait partie, la broderie fait partie. Donc, surtout les plans. Mais ce que je souhaite souligner, et ça c'est très important, et ça a été dit par notre ami Ahmad tout à l'heure, que les Israéliens ont essayé depuis presque un siècle de nous voler notre identité. Il faut savoir que l'agence juive et le Keren Keyemet, au début du XXe siècle, nous disaient à nous, Palestiniens, nous disaient, vous êtes arabes, vous n'êtes pas palestiniens, c'est nous qui sommes palestiniens. Et il y avait des posters, il y a les posters, vous pouvez les trouver, de l'agence juive et du Keren Keyemet, où c'est marqué « Help them build Palestine ». À l'époque, et aussi il faut se rappeler que le mandat en Palestine des Anglais, c'était une idée de préparer la Palestine en tant que foyer juif. C'était l'idée de la Palestine en tant que foyer juif. Et il n'y avait pas, le mot Israël à l'époque n'y était pas dans les têtes. Et puis lorsque les mouvements terroristes à l'époque, le Haganah, le Palmar, etc., tout ça, se sont rendus compte que ce n'était pas possible de nous voler notre nom, notre identité. Ils se sont dit, bon, vous êtes palestinien, vous restez palestinien, mais pour nous, vous êtes arabe. Nous, on est Israël. C'est là
c'est
où l'idée d'Israël. Donc, l'appellation Israël n'était pas dans le vocabulaire du mouvement sioniste au départ. Le mouvement sioniste parlait de la Palestine. Jusqu'à la création d'Israël, c'était encore la Palestine. Voilà.
Très bien, merci. Passons au Freedom à présent.
Revenons donc au Freedom Theater. Donc, le Théâtre de la Liberté fait une tournée en France avec la pièce « Et ici, je suis ». C'est votre histoire, au travers de l'histoire de la Palestine, du camp de Jenin, d'Arna, qui a créé le théâtre des pierres, des enfants d'Arna, des deux intifadas et de l'assassinat de Giuliano Mercamis. Racontez-nous votre histoire du théâtre, s'il vous plaît.
So, can you tell us the history of the Freedom Theater?
As you said, it started with the first intifada, when the Israeli also been attacking the Palestinian territories. The first intifada started in the 80s, almost 88. Then the education system was closed, so children don't go to the kindergartens and the school. And Arna, as a Jewish person standing with the Palestinian rights, she started to bring papers, colors to the children in the camp, and they start to sit in the streets and draw, and you know, that's the situation. And she got alternative Nobel Prize in that time, was $50,000, and they decide to open a children's house in Jenin camp. And from that time, Giuliano came, start to give drama workshop, and they establish a small theater in Jenin called the Stone Theater, because Palestinians were fighting the incubation with the stone, so they call it the Stone Theater. They create a group, and from that group, They made, let's say, the first play ever in Jenin, a play about from Ghassan Kanafani, The Little Lantern, who talks about Little Princess, how she can change her reality and how she make the sun enter the castle. For sure, in the end, she let the sun enter the castle. She took down the walls. And that's the amazing thing about Ghassan Kanafani. He was writing things that today, still, he's like talking about it today. We have a big wall in Palestine, and we dream one day, not to dream, we inshallah looking for to take it down any moment. So from that time, Arnaz got sick, she died, and then the Stone Theater was destroyed in the Second Intifada. But the group who were in the drama group, they became fighters, armed resistance in the invasion of Jenin 2002. And then Giuliano came back to check his friends, his families, his young people. He find all of them, most of them, died until one called Zakaria Zubedi, which was the leader of Al-Aqsa Brigade in West Bank. And he was wanted number one for the Israelis. We stop here.
I might forget.
Next time I will learn French.
Good. Or make much short. No, yeah. I mean, everything you say is excellent. We mustn't make it shorter. Donc, au moment de la première intifada, autour de 87-88, les écoles ont été fermées, les enfants ne pouvaient plus y aller. Et donc, Arna Merhamis est arrivée avec des crayons de couleur ou de la peinture et du papier pour occuper les enfants. Is it $50,000 or 50? 50. OK. Donc, Arna avait obtenu une somme de $50,000 pour le prix Nobel alternatif et elle l'a consacré à ses activités. Son fils Giuliano l'a rejointe et il a mis sur pied un atelier théâtral. Ensuite, il a lancé une activité théâtrale à part entière, donc en montant des pièces. Et la première pièce montée a été La Petite Lanterne, une pièce de Ghassan Kanafani, dont le thème est le fait d'abattre les murs, les murailles d'un château, pour laisser entrer le soleil. C'est là qu'on voit à quel point Kanafani avait une prescience remarquable, puisque ce qu'il a écrit est toujours valable aujourd'hui. Arna est tombée malade, elle est morte. Et le théâtre de Pierre, donc c'était le nom qu'elle avait donné à son théâtre, en hommage à cette pierre qui avait été utilisée lors de la première intifada. Le théâtre de Pierre a été détruit lors de la deuxième intifada en 2002 et Giuliano est revenu. Il a constaté que la plupart de ses élèves de l'époque étaient morts, avaient été tués en étant des jeunes gens qui participaient à cette intifada et qui ont subi le poids de sa répression. Et il en restait un qui était vivant, qui s'appelle Zakaria Zubaydi. Et avec lui, il a lancé une autre aventure théâtrale, qui est celle du Freedom Theater, du théâtre de la liberté.
And for sure, Giuliano and Zakaria Zubaydi and another guy from Sweden called Jonathan, they decide to reopen the Stone Theater with a new title called the Freedom Theater. And for sure, people were surprised when they meet Zakaria, because, you know, the West promote the Palestinian fighter as a terrorist, you know, big beard with big belly, 40 children with four wives and big guns. But when they meet Zakaria, they meet a young person, have no gun, and he talks about the role of culture to save and explain what is going on in Palestine, even as an armed resistance. So in 2006, they open the Freedom Theater. And from that time, Giuliano and Zakaria were believing that next intifada, or the ways that we're going to make intifada, is a cultural and artistic intifada. And for sure, the Israeli didn't like to see Palestinian things out of the box using new tools. And Giuliano was saying, art and culture is an international language and going to present us in different way as the propaganda, Israeli propaganda, promoting us in the world. So yes, Freedom Theater went from India to New York to Brazil to France to UK and started presenting the Palestinian case in a totally different way. people start to buy our tickets, come to the theater, see a Palestinian case, even clap for us, and they call us artists, not anymore terrorists. So the Israelis didn't like this for sure, and I'm sure they decide to finish Giuliano, and Giuliano get killed, assassinated in the front of the Freedom Theater with a masked guy, shot him in the middle of the street, and just disappear. And until today, we don't know who killed Giuliano, and for sure we're asking until today the truth, and for sure the Israeli intelligence
are behind us.
They consider they are number one in the world. They said we don't know until today, which is we don't believe. And for sure, they are having a hand in Giuliano's assassination. And from that, we took our responsibility because we paid a big price, Giuliano and his blood, and we promised to continue the way, even if it cost our lives. And we will talk about what is going on in Palestine, present the case in the way it should be present. And for sure, we, until today, we have different problems for sure, the Freedom Theater facing. And today, one of the most of it is like the Eurabian and NGO conditional fund that they put conditions, political conditions in the cultural institution in Palestine, which is not our role to decide in politics. But for sure, they don't want us to talk about the situation. They want us to admit the resistance of Palestine is a terrorism. They don't want us or anyone benefit as a Palestinian if he has been in prison or his family or. So we refused that fund. And the Palestinian theaters and art institutions are really facing a big struggle. And it's going to be dangerous for the future how we're going to continue to do our work. So, yes.
Oui, une autre personne donc doit être ajoutée à ce groupe des fondateurs, Giuliano Zakaria Zubeidi. C'est un Suédois qui s'appelle Jonathan Stangzak. À ce moment-là, on avait l'image des Palestiniens comme de terroristes, des gros types armés, menaçants, qui ne savaient que brandir des fusils et poser des bombes. Les Occidentaux ont été surpris, par exemple, quand ils ont rencontré Zubeidi, qui était un jeune homme, pas gros du tout, pas en permanence un fusil à la main, et qui s'occupait de culture et d'art. En 2006, s'est ouvert le Freedom Theater, qui a commencé ses activités. Et les Israéliens n'étaient pas du tout contents de ce qui se passait. Ils ont commencé à agir contre le théâtre. Or, le théâtre a présenté son travail dans différents pays du monde. Et il était clair qu'il avait une présence culturelle qui allait contre la propagande israélienne officielle. À ce moment-là, a eu lieu un acte terrible qui a été l'assassinat de Giuliano Mercamis, tué devant son théâtre par un homme masqué. Officiellement, on ne sait absolument pas qui a commis cet acte, mais on peut bien voir à quel point ça profite à Israël, dont les services de renseignement sont parmi les plus forts du monde. On peut imaginer que ce sont eux qui ont fomenté, qui sont responsables de cet assassinat. Quant à nous, nous avons continué, et même si cela nous coûte notre vie, nous continuerons à mener ce travail de résistance culturelle. Et maintenant, nous avons un sale coup. Là, c'est la traductrice qui parle, je ne retrouve plus le terme, mais c'est ça la vérité qui nous arrive. C'est que nous sommes privés de façon importante de fonds européens sous des prétextes de conditionnalité de l'aide à apporter aux ONG. C'est-à-dire que pour être aidés financièrement, les ONG doivent faire la preuve qu'elles n'ont aucun lien avec le terrorisme et que donc dès qu'un membre de l'ONG a fait de la prison, dès que quelqu'un de sa famille a fait de la prison, dès qu'il y a un lien quelconque avec une organisation qui est assimilée, qui est considérée comme une organisation terroriste, les financements sont interrompus. C'est extrêmement dur pour nous.
Oui. Alors face à l'inhumanité d'Israël, on en a parlé depuis le début de cette émission ou durant toute l'émission, Giuliano Mercamis disait mais que le théâtre était aussi une arme plus puissante que la guerre. Alors qu'apporte le théâtre, le Freedom, auprès des jeunes, de la jeunesse du camp?
What does the Freedom Theater bring to the youth in the camp? After Giuliano Mercamis said that theater was a more important, more powerful weapon than some other forms of resistance.
Theater brings life, brings hope, brings imagination. All what Israel is doing, it's to make us died in our heart, in our mind. They don't want us to feel there is a life that we should fight for. The theater gives you the tools how to express yourself, how to tell your story. And that's also one of the problems. As the Palestinians, we didn't have the tools to share our story with the international community, which was, and I still believe, is very important that to have this connection between the Palestine and the international community. Because before 15 years, the propaganda, the media of West and the Israelis propaganda was really changing and controlling the news from Palestine. But with theater, with culture, it gives you the tools that you can express, talk, and tell the story to anyone, everywhere. At the same time, we, as young people in Jenin camp or in Palestine or in the camps in Palestine, facing all these actions, accidents, events all the time, mentally, you are really in danger. And we don't say we're going to free Palestine with theater, for sure. We believe that everything will come together to free Palestine. But as a Palestinian identity, we need healthy young people. It's not healthy for the young people to live all this events that happening every day for a future. We want them to release. We want them to have a small therapy that makes them able to continue their life in a very conscious way, because it's very difficult. It's very heavy, even for adults. It's very heavy on our mental health that we see soldiers invading every day, killing people, destroying houses, and which kind of young people you want for the future. We want them healthy, well, and they be able to think and consider on themselves and focus on the future. And theater, that's what they provide. Workshops, activities to make them healthy in their minds.
Merci, Tomasi. Donc, ce que le théâtre apporte, c'est la vie, l'espoir, l'espérance, l'imagination. Tandis qu'Israël souhaite que nous soyons morts dans nos cœurs, ne veut pas que nous croyions dans la vie. Il est extrêmement important d'établir une connexion, un lien entre la Palestine et la communauté internationale et le reste du monde. Le théâtre, la culture nous apporte les outils pour faire comprendre au reste du monde qui est le peuple palestinien et quels sont nos désirs et nos espoirs. Nous n'imaginons pas que nous allons libérer la Palestine par le théâtre. Ça joue un rôle. Le théâtre fait partie des armes, des moyens par lesquels la Palestine se libérera. Il y a un grave danger à ce que les jeunes cessent d'être en bonne santé. Nous avons besoin de jeunes gens qui soient en bonne santé, qui se sentent libres de continuer leur vie, de poursuivre leur vie de façon consciente. Et cela, le théâtre peut les aider à le faire. Mais je voudrais vraiment insister sur ce problème de santé mentale.
And one example about that, it's me. I am one who lost all his friends in the invasion and after invasion. And I was in prison. I went out also for sure very angry of finding all your friends gone, attacks. But because of the theater was there, I decided to go theater and I changed my whole life to become what you see me now. And if the theater wasn't there, I am a poster on a wall. But that's what we want. We want everyone fighting, resist in different ways from their positions and not one line. I am still alive. because of the theater.
Ben, je suis un bon exemple de cette situation. J'ai perdu tous mes amis, j'ai fait de la prison, j'éprouvais une énorme colère contre l'occupant. En sortant de prison, je suis allée voir du côté du théâtre et ça a changé ma vie. Sans quoi je serais restée une affiche sur le mur. Affiche, ce sont les affiches dites de martyrs. Si vous allez en Palestine, vous en verrez beaucoup. Elles commémorent ceux qui sont morts pour la liberté, pour la résistance.
C'est ça, il vaut mieux avoir des jeunes, des enfants vivants que sur une affiche en étant des martyrs. Et c'est justement ça, la culture, le théâtre, qui permet de vivre et de se libérer des chaînes de l'occupation israélienne. Mais Ahmed a expliqué toutes les difficultés financières, le retrait de la communauté internationale sur le financement de la culture palestinienne au camp de réfugiés, le théâtre.
Pas seulement pour la culture.
Non, mais pour tout, les camps de réfugiés, exactement, voilà.
Toute subvention est conditionnelle.
Ouais. Et la condition est bien sûr très cynique et perverse.
Entre les lignes de ces conditions, c'est qu'ils veulent que nous renoncions à notre droit de résistance, en deux mots.
C'est ça.
Tout bêtement. Voilà.
Alors moi, je pose la question à vous deux et à vous, monsieur l'ambassadeur. Comment peut-on soutenir la création palestinienne artistique dans ces conditions? Est-ce que l'UNESCO peut jouer un rôle? La communauté internationale peut jouer un rôle? Comment soutenir cette création? Comment soutenir la culture en Palestine?
Bien. En réalité... il y a beaucoup, et heureusement, il y a beaucoup des organisations non gouvernementales et des associations qui œuvrent vraiment dans le domaine de la culture de façon générale, culture, patrimoine, etc. Et beaucoup d'associations mixtes franco-palestiniennes. Oui. On en a un exemple aujourd'hui, mais je suppose vous connaissez aussi l'association Hébron France.
Oui, bien sûr.
Il y en a tant d'autres. Bien sûr. Donc, il y a pas mal d'associations à but non lucratif, bien entendu, qui essayent d'œuvrer pour là. Mais ce sont des petites structures et ce sont des gouttes d'eau par-ci, par-là. Et pareil pour le Théâtre de la Liberté à Jenine. Leur budget, je ne sais pas c'est quoi, mais on peut poser la question à Ahmed. C'est pas grand-chose, c'est rien du tout quand on compare ça à un budget d'État ou au budget qu'on a l'habitude de voir pour des associations similaires en Occident ou en France, par exemple. Bien, maintenant, quant aux structures internationales comme, par exemple, l'UNESCO, l'UNESCO soutient, bien sûr, les projets en Palestine via différents moyens. Par exemple, on a tout récemment, il y a quelques jours, il y a ce qu'on appelle le prix Ashburg à l'UNESCO, qui a été attribué à la Palestine pour développer les cultural policies, la politique culturelle, et pour encourager l'entrepreneuriat créatif, culturel aussi en Palestine. Il y a aussi un autre fonds à l'UNESCO qui s'appelle International Fund for Cultural Diversity, which is le Fonds international pour la diversité culturelle. Et il y a deux projets qui ont été soutenus pour la Palestine. On a pas mal de soutien, mais encore une fois, ce qui nous manque, c'est essentiellement, c'est l'infrastructure culturelle qui est en cours de construction. Par exemple, au début des années 90, nous n'avions pas de conservatoire en Palestine. Ça commençait à Ramallah, un petit conservatoire. Il y avait d'enseignement de la musique, parce que j'ai fait de piano depuis l'âge de 5 ans, mais c'était des structures. C'était les écoles privées, c'était les bonnes sœurs et les frères qui nous donnaient les cours. Il n'y avait pas de conservatoire. En 97, j'ai créé à Bethléem le conservatoire qui marche encore. Mais il y a tant d'autres choses à faire. Les musées, on n'en avait pas grand-chose, à part le musée archéologique qui a été confisqué par Israël en 67 à Jérusalem, connu sous le nom de Rockefeller Museum. Depuis, on a maintenant des musées qui poussent un peu partout. On a à Jéricho, à Bethléem, on en a plusieurs, à Ramallah aussi. Donc l'infrastructure culturelle est en cours de développement et c'est ça ce qui nécessite le plus de budget. Or, les donateurs pour ce genre de budget sont très limités, parce que pour les petites associations, ils peuvent trouver de soutien par-ci, par-là,
mais c'est des
budgets conséquents. Mais c'est toujours pas suffisant. Mais ce qui est nécessaire à prévoir à long terme en Palestine, et ça c'est indispensable, c'est comment encourager les artistes et encourager les jeunes à aller vers les domaines artistiques. Si les jeunes voient que voilà, les jeunes comédiens, ils sont en galère, ça ne les encourage pas du tout de suivre la même voie. Pareil, je parle des comédiens, mais pareil pour les peintres, pour les sculpteurs, pour les musiciens, etc. Et donc pour cela, il va falloir absolument avoir une politique culturelle en faveur des artistes. Comme par exemple ce qui existe en France, et que d'ailleurs malheureusement la France essaye de se débarrasser de ce système petit à petit, le système connu de l'intermittent du spectacle. Ça c'est quelque chose qui garantit la pérennité de pas seulement des artistes, et de tous ceux qui travaillent dans le monde de l'art. Et ça c'est une chose qui nous manque. J'en ai parlé à notre ministre, bien sûr pour chez nous c'est quelque chose, c'est pas de luxe, c'est ultra luxe et c'est pas la peine d'y penser. Donc ça, c'est l'essentiel. Maintenant, les autres structures, on revient, l'Union européenne, les États-Unis, leur donation, c'est toujours conditionnel et puis ça s'arrête assez fréquemment. Les seuls pays qui donnent sans condition, ça il faut le reconnaître, c'est les pays nordiques comme Suède, Norvège, etc. et le Japon.
Et le Japon.
Le Japon est l'un des donateurs pour la Palestine, principalement dans le domaine de la culture. Par exemple, au moment en 1997 où je créais le conservatoire de Bethléem, il y avait une donation du Japon équivalente à 22 millions de l'heure, monnaie, pour les instruments de la musique uniquement. Et récemment, 12 millions de dollars pour un site de patrimoine très important en Palestine, à Jéricho, le Hisham Palace, le palais d'Hisham.
Oui, magnifique.
Il y a un très grand morceau, c'est
la
parmi...
Mosaïque.
La mosaïque, exactement. Et donc là, ils ont abrité, ils ont construit l'abri pour cette mosaïque.
Oui.
Donc oui, il y a des pays qui font des donations importantes. Malheureusement, ils sont limités. Les grands donateurs, leur donation est conditionnelle.
Là, nous allons passer, je vous remercie, nous allons passer à la dernière partie de notre émission. On va un peu inverser l'ordre des choses parce que Liad Alastal qui nous attend de Gaza devait passer un peu plus tard, mais du fait des problèmes techniques et des retards, on va juste passer la deuxième pause musicale, le choix d'Ahmed Tobazi. Ahmed, tu vas expliquer ton choix musical. En fait, tu as choisi un groupe palestinien de rap 47 Soul. Explique-nous pourquoi. On passe la musique, la vidéo et tout de suite on fait venir Liad Alastal de Gaza. Why?
Can you explain why you chose, what's the meaning of choosing 47 Soul?
It's a group doing a modern music mixed up with different styles, and they perform in different places and the present Palestine for sure, and the Palestinian case in a different way for music, with the music, which is very nice. They travel, they go festivals, they have Palestinians from 48, which is what we call it now under occupation as Israeli, and they have from Palestinian outside who even cannot go to Palestine. So they made all this connection by music, and for sure they talk about the Palestinian struggle with the music, which is very nice. We need to present the mix between the tradition and the modern music, and they brought a new style that is exciting, make everybody happy, and that's the effect of art. Sorry,
don't say it. No, that's good. I was smiling because you said happy.
So. Yes, no, in the end, that's the point. We have to enjoy what we're doing. It's not just...
Donc, ce groupe palestinien, 47 Souls, est présente un mélange de styles où on retrouve à la fois la modernité et la tradition. Ils vont à des festivals dans différents lieux du monde, donc qui se font connaître ailleurs. Ils s'adressent aussi bien aux Palestiniens de 48, donc ce qu'on appelle souvent Israël, la Palestine 48, sous occupation.
48.
Yes, Dubai, I said 48.
That's okay, okay.
48.
Dubai, Palestine.
Okay,
yes.
When you hear 48,
you know,
that means 48.
Okay, fantastic.
Aux Palestiniens de l'extérieur. Voilà, donc c'est une musique qui rend heureux, qui est agréable à écouter, et vous allez pouvoir la découvrir.
Thank you. stole on us all. We're gonna dissolve this Mexico Bethlehem wall. If you hear us, heed the call.
Nous accueillons maintenant Liad Alastal.
Bonjour Liad.
Très léger, mais on t'entend.
Bon, on va mettre le casque.
Un écho.
Bonjour Liad.
Donc, merci de ta présence. Donc, pour te resituer un petit peu, donc, tu vis à Gaza, tu es cinéaste, tu as réalisé de nombreux films, tu es fondateur de Gaza Story. Tu publies sur Facebook et YouTube des vidéos pour montrer le quotidien des habitants, leur histoire et la culture palestinienne. En résonance avec notre sujet d'aujourd'hui, nous allons regarder donc une vidéo. Peux-tu nous la présenter, s'il te plaît ?
Ok, donc voilà, dans le cadre de Gaza Stories, donc une essai de Gaza pour montrer la vie quotidienne. L'autre visage de Gaza, le côté positif, comme malheureusement les médias occidentaux, les médias internationaux ne le montrent pas. Donc voilà, c'est un doc web sur la vie quotidienne à Gaza que je publie donc chaque semaine sur un thème différent. Et du coup voilà, cette fois-ci, j'aimerais bien vraiment vous présenter un épisode qui me touche beaucoup. Il parle de ce qui s'appelle intitulé « Attente d'une jeune fille palestinienne handicapée écrivaine » qui essaie vraiment de décrire la situation à Gaza sous le mot, en Palestine en général, sous le mot « attente ». C'est-à-dire voilà, le verbe « attendre », le droit de retour, attendre le cessez de blocus de Gaza, attendre l'espoir, attendre de résoudre les problèmes des crises de Gaza. Du coup, voilà, cette jeune fille handicapée qui a des problèmes à la prononciation, elle n'arrive pas très bien parler comme nous. Donc voilà, la seule façon pour elle, c'était d'écrire Donc, elle a navigué dans ses idées, dans ses rêves, ses pensées, pour décrire, pour écrire dans ce bouquin. Donc, c'était ce premier bouquin qui est sorti à Gaza. Donc, elle a écrit ce qu'il tourne en elle-même, dans sa tête. Et récemment, elle a sorti un deuxième bouquin qui est signé, qui est sorti ici à Gaza. Je ne me souviens malheureusement pas du nom. Donc, le nom de cette jeune fille s'appelle Nahil Ashrafa. Elle est jeune palestinienne. Elle a plein d'espoir, d'énergie, malgré son handicap. Donc, je trouve voilà, qu'elle est en rapport vraiment de ce que vous présentez aujourd'hui, cette émission liée à l'art et à la culture palestinienne. Du coup, je vous invite à découvrir cet épisode. Merci à vous.
Filiade, et alors regardons notre émission avec le Freedom Theater avec Ahmed. Ahmed, une question. La vocation du Freedom, c'est aussi la résistance à la culture face à l'occupation israélienne, mais c'est aussi travailler sur un processus créatif, sur un modèle social en changement dans la société palestinienne. À la fois, il y a Israël d'un côté, son occupation, sa violence, mais il y a aussi la communauté palestinienne qui est une société patriarcale et qui est une société qui parfois résiste aux évolutions. Donc, peux-tu nous parler de ça et justement de la vocation de ton théâtre là-dessus? Parce que, par exemple, le Freedom travaille, il met les jeunes filles et les jeunes garçons ensemble pour le théâtre avec la mixité. Vous prenez aussi la mixité. Voilà. Peux-tu nous parler de cela.
So you also, beyond the cultural resistance facing Israel, you also work within the community to create a new creative process, specifically, for instance, by integrating young women, young girls, to the activities of the theater and having them do things with men, young men, despite the fact that many people are influenced by a patriarchal mentality and aren't quite happy with this. So can you tell us more about this approach?
No, I mean, normally after the invasions, the killing, the suffering of the people, all the difficulties that the Palestinian community face, for sure this will bring them back to be more conservative. People mm-hmm. die every day, people get in prison every day, houses destroyed. So what you expect from a community having all these difficulties and attacks? For sure, they will doubt why theater, what theater could do, why culture. This is an outside or West idea about a freedom. But in the Freedom Theater, we believe to arrive to big freedom of Palestine, we need to secure the individual freedom, that we arrive to accept each other and the differences in the Palestinian community. If we arrive to this point, be one, be able to accept differences, be able to everyone express himself first. We're not saying we agree or we not, but that's the important, to secure the freedom, individual freedom of women, children, even men, even secret cases, let's say. That's the first step to arrive to the big freedom.
C'est compréhensible, on peut comprendre qu'un peuple qui est attaqué sans arrêt, qui subit des destructions, se place dans une position, dans une attitude plus conservatrice, essaye de garder ce qu'il a encore, en ayant, après avoir subi toutes ces attaques. Il est normal donc que le peuple, la communauté, doute et puisse se demander à quoi sert le théâtre, à quoi sert la culture. Quant à nous, nous battons pour la liberté collective, mais nous voulons aussi consolider, enfin mettre en place, installer une liberté qui soit celle des individus, en donnant la parole à différents individus, sans dire, sans définir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, que chacun, chacune puisse s'exprimer sur ce qu'il est, qui il est,
so,
il ou elle.
And the point of fighting or resisting to free Palestine Palestine as a land, as a homeland, it's in order to free the people, to free the human being, to free the women, the men, the children. And that's why we're fighting for freedom, to be free.
Si nous nous battons pour la liberté, pour une Palestine libre, c'est pour être libre, pour que chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque jeune fille, chaque jeune homme soit libre dans une Palestine libre.
Pour le Freedom, le théâtre a une vocation bien sûr artistique et est-ce qu'elle a aussi une vocation sociale, mais tu as répondu, mais revenons-y rapidement, sociale et politique?
Does the Freedom Theatre has a call as a social of social and political character?
I think so. I think so. Freedom Theater had create a language. Even you can see how people when they come to us and when they because we have a theater school and it's very easy to see these young people when they come to start the school when they are graduating, they are a strong individual. They have the language to talk, to express themselves. Yes, we present a model for the Palestinian community and for the international community. And as our founders and as our vision as the Freedom Theater, we believe that we want to create a major forest to fight for human in general, not just in Palestine. And we believed if we, inshallah, soon we get the freedom of Palestine, we will move to other country to do theater and fight for the human there. We should unite as a human being. Climate change or Israeli occupation or wars in the whole world. What is the value of all of this if we don't value the human being itself? We have to fight for the planet in the end. People forget they became so selfish. They don't care about others. But in the end, the human being is more important than what is going on now. With the climate change, with the big cases that humanity facing, and as you saw, when a small virus hit the planet, the life stopped. And for sure, we want to create this kind of movement that we fight for the humanity and not something else.
Oui, quand on voit ce que deviennent les jeunes gens au théâtre, ils acquièrent une identité beaucoup plus forte, ils se transforment. On peut penser qu'une fois dans la société, ça change la société de créer de transformer les gens ainsi, de leur donner cette force. Nous ambitionnons, en fait, à mesure que nous allons vers la libération de la Palestine qui aura lieu, si Inch'Allah, nous ambitionnons de devenir un modèle, pas seulement pour la Palestine, mais pour la communauté mondiale. Parce que, en fait, tout est lié, toutes les formes de liberté sont liées. Actuellement, le climat est en danger, la situation générale de la planète se dégrade. Là-dedans, les êtres humains ont tous un rôle à jouer et ne peuvent pas progresser sans défendre planète. Nous ne pouvons pas être égoïstes et nous voyons à quel point tout peut être compromis et mis en danger, par exemple par un simple microbe. Donc forcément, oui, le Freedom Theater a une vocation politique et sociale.
Peux-tu nous parler de ton nouveau projet, La promesse de la révolution? Explain, please.
So, can you tell us about the revolution's promise? Which is, Christine called it your project, but of course it's more broad
yes.
than that.
It's, no, it's exactly...
son project.
Yeah.
large.
Yeah. Yeah, it's the latest Freedom Theater project. It's just continuation of what I was said the last question. It's because, you know, this control of artists, control of freedom of speech, there is no money, it takes a lot of time and big budgets to take Palestinian productions outside. And for sure, with the censorship of the Palestinian art and case to be presented in the West or in different places, we were thinking how we can share the story of Palestinian and especially the artists of Palestine. The artists of Palestine simply facing a lot of pressure, problems, struggles from the Israeli occupation just because they're doing art. And we want to share these stories with artists in the world. So we made an interviews with the artists in Palestine in different fields, circus, filmmakers, actors, documentaries, photographers, and even a poet. For example, Darin Tatour is a poet. Have been in house for 3 years just because a poet she wrote. Mohammed Bakri, which is a famous filmmaker, documentary Janine Janine, he have been almost 18 years in the Israeli court, in the end just to deny this film and not allowed it to be presented. Suhail Khoury was in prison just because doing a music. Mohammed Sabani, he's a caricature drawer. He also was in prison because of his work. A circus guy, Mohammed Abu Sakha, he also went to prison. Juliano Mir Khamis was killed just because doing... So we did, we don't forget Al Mishal Theater in Gaza being bombed. And it's a theater building. So we want to show people that Palestinian, no matter who you are, just if you have an identity of Palestinian, then you are a target from the Israeli occupation. And for sure, we made this interviews for a theater text, and we made a website for it. So anyone in the world can just check, read this stories or monologues. And for sure now, you can find it in English. We have now some of it in French there. We have some in Catalonian, and we move with it to share with everywhere. So we ask everyone, he can go to that website, find the text and share it, do it, make a readings, share it with the community, with the theaters, with the students, so people can connect and know more about the Palestinian artist struggle. And for sure, we aim to create this kind of, let's say, unity between artists in the world and the Palestinian artist, and to exchange information about each other and support each other, even like an artist in Russia or in Ukraine or in US or in China or in Afghanistan or in Africa. We like create this identity that the artists themselves fight and defend the artists in different places in the world.
Ça coûte... je vais résumer. Hein. Donc ça coûte très cher d'organiser des tournées du théâtre, de faire en sorte que dans différents pays du monde, les publics découvrent le travail du Freedom Theater. Donc il fallait trouver un autre moyen, et pas seulement pour faire connaître le Freedom Theater, mais aussi la force de l'art palestinien, sachant que le seul fait d'être un artiste en Palestine, d'être un artiste palestinien, représente un danger. Nous avons donc créé ce site, mais c'est plus que ça, c'est un projet qui ambitionne d'être global, qui s'appelle... Comment est-ce qu'on peut faire connaître le nom exact, notamment du site, par la radio?
Bon,
ça sera mis sur le site. Donc c'est therevolutionspromise.com, la promesse de la révolution, en anglais. Nous avons passé 2 ans à recueillir des monologues, des témoignages d'artistes palestiniens qui ont été menacés, ou pire, par la répression israélienne et par la guerre menée par Israël contre l'art et la culture palestinien. Donc si vous allez sur le site, vous trouverez des cas extrêmement variés, puisqu'il peut s'agir aussi bien d'artistes de cirque que de théâtre, que de poètes, des créateurs, des créatrices de toutes sortes. Par exemple, Darin Tatour, qui est une poète qui a passé des années, 3 ans, soit en prison, soit en assignée à résidence, privée de sa liberté en raison d'un poème, soit Souhail El Khoury, qui avait été emprisonné lui aussi en raison de son travail musical, Mohamed Bakri, qui en est à ses 18 années de procès autour d'un film sur Jénine, ou Mohamed Sabane, qui est un caricaturiste. Enfin voilà, c'est certain, je crois qu'on en est à une quinzaine au total, 15 of them right now, 15 monologues are available on the radio, or more than that, on the website, sorry.
No, all of the artists.
All the artists.
The text already is there that we finish. That's in English. What, but
100 or something like that?
I don't have a number, but...
Anyway, many. Donc,
give the link.
Yeah, the link, please. You can share it on the website.
De très nombreux artistes, créateurs artistiques menacés, battus, emprisonnés pour la liberté d'expression figurent sur ce site. Et on peut mettre dans ce groupe Giuliano Mercamis, qui lui a été assassiné. Voilà, donc surtout, on demande à tout le monde... À mesure que les sites seront accessibles dans la langue de chaque pays, d'utiliser le contenu de ce site autour d'eux, dans des réunions, dans des séances comme des spectacles, pour faire connaître la situation et pour la rendre vivante, pour y ajouter leur propre contribution. Il y a déjà un petit bout de site qui est en français. Également, ça existe également en catalan, mais on espère que tout cela va se développer pour arriver à ce que dans le monde entier il y ait une unité, un processus d'unité avec les artistes de Palestine.
Qu'est-ce que tu attends de la communauté européenne ?
Communauté internationale.
Internationale, pardon.
What do you expect from the international community?
We expect more support, talks about the occupation and what is going on in Palestine, and we want to push more the government and the politics in Europe to at least change the reality in Palestine. Everyone have a responsibility, and I think we just ask the international community to take responsibility and just effect and push the Israeli army to stop and the occupation to stop and just find a solution after all this time the Palestinians could at least have a normal life.
Donc nous attendons un soutien plus important, concret, des conversations sur ce qui se passe, sur les événements. Il faut changer la réalité en Palestine. Il faut donc qu'il y ait une responsabilisation qui se mette en place. La communauté internationale doit pousser l'armée israélienne à cesser ses actions agressives contre les Palestiniens, pour que les Palestiniens puissent enfin mener une vie normale.
Donc notre émission touche à sa fin. Donc la culture palestinienne est universelle, plurielle, moderne, elle vit, elle existe. Donc une dernière question.
Et c'est la question de départ, et c'est la question de notre émission. Peut-on dire que la culture est une arme de résistance face à l'oppression israélienne? Est-ce qu'elle représente un espoir en Palestine pour une Palestine libre?
Can you say that culture represents a weapon in Palestine and a hope to obtain a free Palestine?
Yes, Giuliano Zaccaria Zubedi was saying, the stage is my AK-47. And as a Freedom Theatre, we say, yes, we do theatre, but it's not just for entertainment. Our theatre and our project, it's resisting. And we resist through theatre. And yes, it's our weapon, it's our tool to resist and change our reality and change the typical picture of Palestinian people everywhere. So yes, it's an weapon and we use it to resist.
Donc Giuliano disait la scène est notre Kalachnikov. Quant à nous, nous disons le théâtre, ça n'est pas juste du divertissement, mais c'est une arme, c'est un outil qui permet de changer la réalité. Donc oui, on peut bien dire que c'est une arme de résistance qui agit sur le réel et la réalité de la Palestine.
Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci, vraiment un grand merci à tous les invités.
Mm-hmm. Mounir Anastase, qui a dû nous quitter malheureusement.
Fadwa Kader.
Ahmed.
Sophie Mayou, et vraiment un grand merci Sophie pour ta traduction. Daniel Toiti qui est là, qui représente le théâtre ATL Jénine. Merci à Erwan pour la technique.
Un grand merci à Rabat
pour ton soutien et ta confiance.
toute notre solidarité au peuple palestinien
qui vit, résiste, existe.
Cette émission a été réalisée en partenariat
avec Amitié Palestine Solidarité
et Radio Armada
et animée par Christine Hernandez
et Mylène Jouffroy.
Alors merci aux auditeurs pour votre écoute, merci aux participants qui sont en studio aujourd'hui, merci de votre patience. Vous pourrez réécouter notre émission en podcast sur le Facebook de Radio Armada et sur le Facebook d'Amitié Palestine Solidarité. Et la prochaine émission de Résistance
chronique palestinienne
sera intégralement consacrée en début juillet sur Gaza. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Thank you.
Bravo.
Thank you.